Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa, à mes côtés.
Alain.
Chantal.
Niels.
Nous sommes les habitants du quartier de Bourg-en-Bresse, à la Croix-Blanche.
On est en direct à la boulangerie Céréa, avenue Amédée Mercier, pour une émission sur le quartier.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.
Dans cette émission, on est allé à la rencontre des habitants.
On a interviewé différents acteurs du quartier.
Et vous entendrez Jean Meyer, le directeur du centre social, en fin d'émission.
Radio B.
Les bonnes ondes.
Awa et Niels, vous êtes allés à la rencontre des habitants du quartier ?
Oui, l'objectif c'était de connaître leurs ressentis sur leur quartier.
Des rencontres et des histoires intéressantes.
Comment vous êtes arrivée dans le quartier ?
Depuis 1983, j'habite dans ce quartier. La Croix-Blanche, elle est entourée de verdure. C'est calme, à proximité de tous les commerces, des magasins, des pharmacies, tout ce qu'on veut, des écoles.
Je suis arrivée dans le quartier déjà en 2012, grâce à l'assistance sociale.
Je suis arrivée là parce que où j'étais en location, il n'y avait rien, pas un commerce, rien du tout. Donc c'était la misère. J'ai fait un dossier et Bourg Habitat m'a contacté. Je suis arrivée ici.
Mon père qui habitait là, du coup, je me suis retrouvée tout jeune ici. Ça va faire 25 ans.
De base, j'habitais à l'étranger, en Italie, puis j'ai emménagé ici, à la Croix-Blanche, il y a à peu près 6 ans.
Comment vous avez fait pour rencontrer du monde dans ce quartier ?
Les gens ne sont pas très ouverts. Hein.
Les gens sont assez faciles, ils viennent à nous, il y a le pôle aussi qui offre des cafés, donc on arrive à faire connaissance un peu avec l'entourage qu'il y a autour, les jeunes... Ils traînent un peu dehors, donc quand on a besoin d'un coup de main, c'est pratique.
Les gens sont quand même assez froids hein, ici. Hein. J'ai encore rencontré pas grand monde, juste une voisine, mais autrement, c'est tout. Hein.
Je suis là depuis tout petit, donc j'ai connu plein de personnes plus jeunes ici, mais après c'est un quartier qui est assez calme. Hein, ici, on arrive à faire des rencontres assez simplement.
Les gens ici, ils s'approchent directement de toi. S'ils te voient étrangère, ils viennent vers toi pour te demander si tu viens d'arriver, si tu as besoin de quelque chose. Pas senti que je suis étrangère ici.
Tout d'abord, je suis sorti, je suis parti au terrain. Je commençais à jouer avec les gens que je ne connaissais pas de base. On a joué au foot, on a fait connaissance, puis par le temps, on est devenus amis.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore mieux dans ce quartier ?
Déjà que les gens, ils arrêtent de voir les quartiers comme des petits trous tout noirs où il n'y a que des malfamés. Moi, pour moi, il n'y a rien à changer, c'est juste le regard des gens qu'il faudrait changer.
Bourg Habitat, il s'occupe bien de ses locataires, en dehors des ascenseurs qui tombent en panne de temps en temps.
Moi, je trouve déjà le comportement des gens, parce que les gens sont très agressifs ici.
Le parc est un petit peu laissé à l'abandon. Ils viennent mettre des monticules de copeaux de bois. Les chemins sont défoncés par les camions et donc, ce n'est pas bien praticable. Faire accélérer les travaux à l'école, parce que l'école Alphonse Daudet date. Il y a des infiltrations d'eau.
Il nous manque des aires de jeu pour les enfants. On a un toboggan qui est à quelques mètres de la route. C'est extrêmement dangereux. J'ai vu aucune amélioration depuis 5 ans.
Il y a pas mal d'animation, ça va, le quartier se porte plutôt bien. Façade peut-être à refaire un peu, tout ça, pour améliorer la beauté du quartier, mais sinon ça va, dans l'ensemble c'est pas mal.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu.
Savez-vous qu'une école hors norme s'est installée tout près d'ici ? Chantal, c'est un sujet qui t'a interpellé ?
Complètement. J'avais déjà étudié les écoles alternatives. Je suis donc allée à la rencontre d'Aurélie Alvarez.
Aurélie Alvarez, vous êtes directrice éducatrice Montessori à l'école Les Chemins de Traverse à Bourg-en-Bresse. En quelques mots, qu'est-ce qu'une école Montessori ?
Question très difficile puisque quelques mots ne vont pas suffire. Voilà, la pédagogie Montessori, c'est avant tout une pédagogie et pas une méthode. C'est-à-dire qu'une méthode serait quelque chose que l'on peut suivre à la lettre sans finalement vraiment réfléchir à ce que l'on fait. Et cette pédagogie invite vraiment à réfléchir sur comment on accompagne les enfants, à être dans l'observation, comment chaque enfant évolue et comment on peut au mieux accompagner les pas qui le font lui-même avancer et l'accompagner dans son propre élan. Plutôt que peut-être parfois trop anticiper en voulant le faire grandir, alors qu'en lui faisant confiance, il peut grandir vraiment avec sa propre curiosité, ses forces.
Comment est financée l'école ?
Alors, l'école que nous avons ouverte en septembre est une école hors contrat, c'est-à-dire une école qui ne bénéficie pas de soutien financier de la part de l'État. Pour une école hors contrat, il faut fonctionner pendant au moins 5 ans avant de pouvoir prétendre à avoir une aide de l'État, c'est-à-dire qu'éventuellement le salaire d'une enseignante soit partiellement pris en charge. Ce qui veut dire que pour notre école, aujourd'hui, ce sont les parents qui participent au fait que l'école puisse fonctionner et donc avec les charges qui sont attachées au fonctionnement d'une école, que ce soit le loyer ou les salaires des professionnels.
Combien d'enfants accueillez-vous ?
Alors, actuellement, il y a 10 enfants qui sont inscrits à l'école. Voilà, l'école a ouvert ses portes en septembre. Il y a des enfants encore un petit peu trop jeunes pour rentrer dans l'école qui attendent la prochaine rentrée pour faire leur première rentrée à l'école. Et à terme, l'école devrait pouvoir se développer et accueillir deux classes. Actuellement, c'est une classe. Et le projet, c'est vraiment d'accueillir deux classes et de pouvoir accompagner les enfants dès cette année, dès l'année prochaine, jusqu'à la fin de leur année, de leur cycle primaire.
Et alors, combien ça coûte pour scolariser son enfant ?
Alors, on propose des tarifs qui sont en fonction du quotient familial. Voilà, il faut aller sur notre site internet et consulter le tableau qui correspond au taux décollage. On appelle ça des écollages tous les mois.
Au vu de vos tarifs, ne pensez-vous pas que cet enseignement est réservé aux familles les plus aisées ?
Alors, c'est un sujet qui a été dans les toutes premières questions de l'élaboration du projet et qui est encore au cœur de notre réflexion. Notre souhait n'est absolument pas de créer une école qui soit accessible à une partie de la population. Il se trouve que, parce qu'on ne peut pas vivre de bénévolat, comme personne d'autre, nous sommes obligés de nous assurer un minimum, parce que je parle bien d'un minimum de salaire pour faire vivre cette école. Et voilà, on espère que au fil des années, nous arriverons à faire baisser la participation financière des parents, parce que peut-être nous aurons un soutien de la part des collectivités, de l'État, ou pourquoi pas de la part de mécènes, de gens privés qui soutiennent notre démarche, ce qui a déjà été un petit peu le cas. Nous avons eu la chance de rencontrer quelqu'un qui nous a aidés à acheter le mobilier de l'école. Donc, c'était une grande aide pour notre association, puisque nous sommes une association, loi 1901. Voilà, et on espère vraiment qu'à terme, cette école, effectivement, pourra coûter moins cher aux familles et ouvrir sur toute demande. Ceci dit, dès aujourd'hui, je peux affirmer que les gens qui sont dans notre école ne sont absolument pas des gens qui sont aisés financièrement, puisque comme nous pratiquons les coefficients familiaux, nous pouvons constater que certaines familles ont des revenus vraiment, vraiment bas et que pour eux, c'est un vrai choix. Et, il y a des familles qui ont fait une collecte auprès de leur famille, de tous les gens de la famille, pour obtenir la somme de cette année pour leur enfant. Et c'est vraiment un choix éducatif qu'est le leur, et ça n'a rien à voir avec leur aisance financière, vraiment.
Pour vous, est-ce que ça a du sens d'être installé dans un quartier au cœur de la ville ?
Alors, notre projet initial était plutôt un projet qui voulait se situer à la campagne pour que les enfants bénéficient également d'un contact quotidien avec un élément naturel. Il se trouve qu'on a trouvé ce local ici dans le quartier, qui est un quartier que je connais bien parce que j'y ai enseigné la musique pendant 18 ans. Et donc, c'était pour nous, ça avait vraiment du sens de pouvoir ne pas être trop loin de la ville et être vraiment intégré à la vie de la cité, dans son ensemble sur Bourg-en-Bresse. Et on souhaite mettre en place de plus en plus des choses, des opportunités qui permettent le plus possible d'ouvrir les portes de l'école pour que cette école ne soit pas exclusive pour les enfants qui y sont inscrits dans le cadre de l'école. Et on propose déjà des ateliers le mercredi matin pour des enfants qui ne sont pas à l'école et qui bénéficient ainsi de l'activité et du matériel comme un loisir. Et puis des stages pendant les vacances scolaires, des ateliers de découverte de la pédagogie qui s'adressent aux adultes. Voilà, nous essayons d'ouvrir les portes de cet endroit.
Eh bien, merci à vous, Aurélie Alvarez.
Merci.
Pour plus de renseignements sur cette école, rendez-vous sur le site leschemindetraverse.fr. Des ateliers et des stages sont proposés les lundis et mercredis matin, mais aussi les mercredis après-midi. Tout est en ligne.
Après les chemins de traverse, poursuivons notre route vers les jardins familiaux.
Rue de la Croix-Blanche, on passe devant l'école d'Audet. À quelques centaines de mètres sur votre gauche, des cabanons de jardin et des potagers bien alignés. On arrive aux jardins familiaux. Michel Bernin, vous êtes président de l'association de gestion des jardins familiaux de la Croix-Blanche. C'est quoi le principe des jardins familiaux ?
Alors, le principe des jardins familiaux, c'est une association. Donc, on loue 14 000 mètres carrés de terrain à la ville. Donc, une association a été constituée. Il y a un bureau, un CA, nous sommes 12 personnes, et tout un ensemble de jardiniers qui sont les membres de l'association. Donc, tout le monde est là pour faire un jardin. C'est convivial, c'est familial.
Comment ça marche ? Quelle démarche faut-il faire pour y accéder ?
Eh bien, les futurs candidats à parcelles viennent me voir quand ils veulent. Il y a mon téléphone qui est disponible, je crois, sur le site de la ville, je crois. Et vous venez voir, on prend rendez-vous, on remplit une fiche. Et les jardins sont attribués par le conseil d'administration et les membres du bureau aux alentours du 11 novembre. La cotisation, c'est 45 centimes le mètre carré. Donc, ce qui fait que pour un jardin environ de 100 mètres carrés, c'est 45 euros à l'année. L'eau est compris. On demande juste une caution de 100 euros pour les personnes afin que le jour où les jardiniers partent, ils puissent nous redonner la parcelle propre, l'abri propre. Voilà. Et puis, bien sûr, les clés qui vont avec.
Et qui peut y accéder ?
Alors, pour accéder au jardin ici de la Croix-Blanche, il faut impérativement habiter Bourg-en-Bresse. La ville de Bourg-en-Bresse nous impose ça, puisqu'on est sur la commune de Bourg-en-Bresse. On paye le loyer à la commune de Bourg-en-Bresse, donc il faut habiter Bourg-en-Bresse. Et le terrain appartient à la ville de Bourg-en-Bresse. Il y a 14 000 mètres carrés de terrain sur lequel il y a les abris et puis 71 parcelles. Donc on a 71 jardiniers. On a encore des grosses parcelles, on a les parcelles de 200-220 mètres carrés que nous sommes prêts à partager pour faire venir un plus grand nombre de jardiniers.
Justement, ces parcelles sont-elles toutes occupées ?
Ah oui, à ce jour, elles sont toutes occupées et on a même du mal à répondre à toutes les demandes puisqu'on a toujours à peu près une dizaine de demandes en cours.
Votre jardin est au cœur d'un quartier, entre des pavillons et des immeubles. Comment ça marche pour cultiver des légumes en ville ?
Oh ben là, on n'est pas tout à fait en ville, on est surtout à la campagne, mais on a l'obligation quand même d'embellir le quartier. La ville de Bourg-en-Bresse nous demande, il y a une convention qui a été signée avec eux, donc elle nous demande de jardiner, de faire du jardinage durable, donc limiter les pesticides, même plus que les limiter, c'est interdit. Bien sûr, utiliser le compostage et puis limiter les déchets, sur le jardin, et surtout embellir le quartier. On n'a pas le droit, par exemple, de construire des tunnels supérieurs à un mètre, de planter des arbres, des choses comme ça. On doit avant tout exclusivement réserver ces parcelles à la culture potagère.
Combien y a-t-il d'attentes sur la liste d'attente pour avoir une parcelle ?
Oui, le temps d'attente moyen actuellement, il est de l'ordre de 2 ans.
Quel est le profil des jardiniers ?
Le principe, c'est qu'on accepte tout le monde. À partir du moment où on habite Bourg-en-Bresse, tout le monde peut porter sa candidature. On a aussi bien des retraités, des jeunes actifs. Il n'y a pas de problème. Tout est convivial, on accepte tout le monde.
Et puis, une petite question subsidiaire. Depuis quand est-ce que le site existe ?
Alors, le site va avoir, je crois, cette année 40 ans. Notamment, on doit faire une petite fête au mois de juin. On a l'habitude, tous les ans, au mois de juin, de faire la fête des jardins. Donc, ça se passe entre nous, entre membres des jardins. Et puis, bien sûr, une petite participation de la ville. Mais cette année, ça prend une autre dimension du fait que c'est les 40 ans. Donc, on va un petit peu plus insister sur le fleurissement du site. On va essayer de fêter ça au mieux.
Les gens de la Croix-Blanche, est-ce qu'ils représentent un pourcentage important ?
Oui, tout à fait. Tous les lotissements autour de ce site-là, il y a de nombreux jardiniers. Notamment le dernier, je ne sais pas comment s'appelle le lotissement là-derrière, mais on a beaucoup de jardiniers sur le nouveau lotissement là-derrière.
Merci, Michel Bernin, président de l'association de gestion des jardins familiaux de la Croix-Blanche. Merci de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Si vous avez la main verte, si vous êtes motivé pour cultiver vos tomates, ne tardez pas à vous inscrire.
À noter qu'il y a 4 autres jardins familiaux à Bourg-en-Bresse. Renseignez-vous auprès de la mairie.
Et notre quartier regorge de nature. Saviez-vous qu'il abrite des espèces protégées ? Eh oui, le marais du Dévorat est un espace naturel réservé.
Si vous voulez en savoir plus, ça se passe le vendredi 14 février à 20h30 au local de la SNAA, à la Maison des associations de Bourg. Une conférence autour du Dévora.
À vous et Nils, merci à vous et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Restez branchés sur le 90 FM Radio B. On se retrouve tout de suite en direct de la boulangerie Cerea dans le quartier de la Croix-Blanche.
J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux. Ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la rien de plus.
Tu m'as vu
nu. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine la jungle de saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Des hamsters de 130 kilos. Des animaux moitié saucisses, moitié plastique.
Vous êtes toujours sur Radio B 90 FM.
C'est l'émission des habitants du quartier de la Croix-Blanche.
On est toujours en direct de la boulangerie Cerea, avenue Amédée Mercier à Bourg. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment.
Michel et Fabrice, bonsoir.
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 Jean Meyer, vous êtes le directeur du centre social Amédée Mercier à la Croix-Blanche. Bonsoir.
Bonsoir.
Fabrice et Michel, l'esprit de solidarité vous anime tous les deux. Vous n'êtes pas les seuls dans le quartier.
Effectivement, Fabrice est allé à la rencontre de l'association Main dans la Main.
Comment a-t-il créé votre association ?
Bonjour Bilal. Donc l'association Main dans la Main a été créée suite aux événements par rapport aux migrants. Donc suite à cela, les habitants du quartier, les citoyens de Bourg-en-Bresse avaient sollicité un grand intérêt à cette action. Et là, on a décidé de... Donc quand je dis « on », c'est les citoyens de Bourg-en-Bresse qui ont décidé de créer une association à leur nom. Donc c'était notre but également d'être là pour aider les citoyens de Bourg-en-Bresse et autres. Donc il y a les villes aussi à côté, on a Mâcon, on a Lyon, parce que c'est une association qui est régionale également. Donc toute personne qui passe sur Bourg-en-Bresse ou qui vit sur Bourg-en-Bresse, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils nous contactent. C'est comme ça qu'elle a été créée.
Quel est le but réel de cette association ?
Le but réel de cette association, c'est d'apporter du soutien aux personnes et de l'aide, et des fois juste de l'écoute. Donc en fait, les personnes peuvent nous contacter, que ce soit ados, que ce soit adultes ou personnes âgées. Ils viennent nous voir. Des fois, ça part de rien, c'est d'une discussion. Ils ont besoin d'écoute, donc on discute avec eux. On est là, on leur consacre du temps. Et ensuite, de là, on voit dans quoi on peut les aider. Donc des fois, il n'y a pas besoin d'aide, il y a juste besoin d'écoute et de partager un moment et de savoir qu'on est présent pour eux. Et ensuite, quand il y a des besoins, ben on définit les besoins avec eux et là, on monte des actions. Et c'est eux qui choisissent les actions, ce n'est pas nous non plus. Comme par exemple, comme vous savez, on fait de l'atelier cuisine au centre social. Donc on organise des ateliers cuisine pour les femmes qui sont qui ont subi des violences, que ce soit physiques, morales. Le centre social est très difficile à atteindre pour certaines personnes parce qu'il y a les assistantes sociales, etc. Donc automatiquement dans leur tête, c'est assistante sociale, centre social, assistante sociale, on enlève les enfants, etc. On rentre dans la vie privée. Alors que quand on est là en tant qu'intermédiaire et qu'on a déjà eu ce premier approche avec les habitants, bah c'est plus facile de les faire pénétrer au centre social parce qu'on est présente. C'est un, en fait, c'est un accompagnement, mais après, on les laisse livrer à eux-mêmes, mais c'est fait exprès. Hein. C'est au début, on les accompagne, et après, on les laisse se responsabiliser, avoir confiance en eux, parce que notre association, elle est basée beaucoup sur la confiance. Donc, et ensuite, on leur fait participer à des activités qu'ils nous proposent, comme l'atelier cuisine, où il y a des femmes, il y a des hommes qui peuvent venir et cuisiner, partager un moment, et avoir certains déblocages également.
Alors, justement, vous avez déjà répondu à quelques autres questions qu'on avait prévues. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place un partenariat avec le centre social de la Croix-Blanche, Amédée des Merciers?
Alors, nous, on est une petite association. Au niveau de subventions, on n'a pas beaucoup de subventions. On fait nos propres actions pour avoir nos propres financements. Et le centre social, c'est vrai qu'ils ont des locaux. Déjà, de un, je connais le centre social depuis très longtemps parce que je suis habitante du quartier également. J'ai connu les centres sociaux dans mon enfance parce que j'habitais aussi au Canal et que le centre social de la Ressource, je connaissais très bien également. J'ai fait beaucoup d'activités là-bas et ça nous avait apporté en tant que jeune fille ou jeune beaucoup, beaucoup de choses. Ça nous a permis de voilà, nous faire grandir dans une ambiance... Comme on dit, parce que le Canal, c'est familial un peu, donc dans une ambiance familiale, mais tout en ayant confiance aux professionnels. Et c'est ça ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir confiance aux professionnels, parce que des fois, on a des grandes surprises, et puis après, on se braque. Et là, pas du tout. Donc le centre social, on travaille avec eux, parce que déjà, Jean Meyer, il est super, ça, je tiens à le dire. Et puis on trouvera pas de directeur comme ça hein. Et de deux parce qu'il y a cette confiance qui s'est instaurée entre nous aussi.
Quelles sont vos activités prévues pour cette année?
Alors nous il faut savoir qu'on a une activité principale qu'on y tient énormément, c'est la récolte d'habits qu'on envoie dans des pays défavorisés. Alors, on travaille avec Maraude Solidarité aussi. Donc, quand c'est sur Bourg-en-Bresse, on favorise d'abord les personnes sur Bourg-en-Bresse. Et comme on en reçoit énormément, eh ben, on a décidé d'envoyer dans des pays défavorisés. Voilà, on fait du tri. Pareil, c'est des bénévoles qui sont là, qui participent, parce qu'il faut compter à peu près 150 bénévoles dans Bourg-en-Bresse. Hein. C'est le nombre de bénévoles qu'on a. On ne fait pas d'adhésion, c'est fait exprès, parce que nous, on est comme on a dit, c'est une association d'habitants, de citoyens. Donc, on estime que les adhésions ne sont pas vraiment nécessaires parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de payer cette adhésion. Donc, en fait, les personnes, comme ça marche super bien, viennent nous voir. Et à chaque action, eh ben, ils sont bénévoles et ils veulent participer et parce qu'ils savent le but de l'association, qu'est-ce qu'il en est.
Niveau financement, vous sentez-vous soutenu par les différentes collectivités?
Financièrement, on a un exemple concret, c'est que là, on voulait faire diffuser le film Soumaya. Donc, c'est un film qui nous tient à cœur parce que il y a un grand débat qui peut se faire dessus. Donc, c'est un film qui a été censuré au Grand Rex et qui parle d'une femme voilée, donc on est en plein dedans, qui a été, qui a subi des violences psychologiques, physiques également, qui a suivi beaucoup de préjudices sur l'islamophobie, etc. La plupart du temps, ça vient de l'ignorance et des amalgames et des préjugés. Donc, ce qu'on a voulu faire, bah, c'est faire diffuser ce film au Vox le samedi 1er février. Et du coup, on a demandé une subvention à la mairie qui est politique de la ville, l'enveloppe politique de la ville. On ne sait pas encore si on aura, si ça sera favorable ou pas. On comprend que le sujet est un peu À prendre avec des pincettes, vu tout ce qui se passe. Mais nous, on n'est pas là pour l'histoire, on est là pour le après. Comment communiquer, comment savoir vivre ensemble, en paix, en ayant chacun ses opinions. On n'est pas obligé d'appartenir à une religion pour être heureux ou pour quoi que ce soit. On peut être chrétien, athée, juif, musulman, et vivre ensemble, mais vraiment avec amour et paix.
Donc par rapport à ça, justement, vous avez sûrement des objectifs à long terme. Et quels seraient cet objectif à long terme pour l'association, bien sûr?
Notre objectif à long terme, c'est d'être présent pour les habitants et les citoyens. C'est vraiment notre objectif présent et à long terme, et vraiment de les soutenir dans tout.
Amina Etoubi, Chériette, la présidente de l'association Main dans la Main.
Je vous rappelle donc que le film Soumaya sera projeté le samedi 1er février au Vox sur deux séances, une à 14h et une à 20h, en présence du réalisateur. A noter qu'à l'issue de cette projection, des échanges auront lieu dans la salle.
Pour avoir plus d'informations sur l'association Main dans la Main, vous pouvez vous adresser au centre social Amédée Mercier.
Jean Meyer, vous êtes le directeur de ce centre social?
Une petite réaction à ce que vous venez d'entendre?
Ma réaction, c'est que tout ça, c'est extrêmement positif. Quand on entend des personnes comme Amina qui ont de l'initiative, de l'envie de faire tomber des stéréotypes, des a priori, on peut s'en réjouir. Et donc, je reconnais pleinement l'action d'un centre social à travers cette initiative, puisque nous sommes là pour encourager les centres sociaux, accompagner, développer la vie sociale d'un quartier. Et cela, ça en fait partie.
Donc, pour vous, c'est quoi le rôle du centre social au sein de ce quartier de la Croix-Blanche?
Alors, le rôle d'un centre social, en général, c'est un équipement qui est un lieu d'accueil ouvert à tous les habitants du quartier, qui a une fonction de proximité et qui fait de l'offre d'activités, de services. Mais avant tout, le centre social, c'est une maison où on construit du projet. Donc on vient d'avoir un témoignage de projet qui est co-construit avec les habitants. Donc ça, c'est la fonction essentielle d'un centre social, de construire du projet avec les habitants des quartiers.
Et pour ça, quelle activité vous mettez en place dans le centre?
Alors, je disais qu'il y avait de l'activité, du service et du projet. Alors, en termes d'activités, j'en citais quelques-unes. Il y a des activités classiques comme la cuisine. Il y a des cours qui sont donnés, de cours de français pour les personnes avec l'association Intellec. C'est ce qu'on appelle les ateliers sociolinguistiques, les ateliers de compétences clés. On a des ateliers de couture, on a des ateliers d'accompagnement à la scolarité. Voilà, ça, c'est un petit peu toutes les activités. Il y en a en tout au Centre social Amédée Mercier actuellement 65. Si on accumule les services, les activités et les projets, ça représente 65 services, activités dans l'ensemble.
D'accord. Donc, comment vous impliquez les habitants?
Alors ça, c'est une question. Comment on implique les habitants? On n'a pas à décider d'impliquer les habitants. On écoute d'abord les habitants, c'est la première chose. Et c'est de partir de leur réalité, de s'appuyer sur leur réalité, là où ils en sont. Et c'est avec les préoccupations des habitants que l'on construit des choses. Il y a un sociologue, un universitaire qui dit, en fait, et pour moi, je le répète souvent, c'est un bon résumé, c'est qu'il faut prendre en considération ce qui est important pour les habitants. C'est-à-dire que c'est eux qui décrètent ce qui est important pour eux. Ce n'est pas l'extérieur ou d'autres personnes. Donc l'idée, c'est de donner de la considération et du contrôle à ce qui est important pour les habitants.
On a constaté que certains habitants n'avaient pas du tout d'informations sur le rôle du centre.
Ah oui, ça c'est exact.
Pourquoi, selon vous?
Parce que, on va dire d'un point de vue conjoncturel, pour l'instant, c'est très difficile pour le centre social. Hein. On connaît une période difficile. On a des postes en moins. On est un petit peu en souffrance sur le plan de la... Je ne vais pas exposer tout, mais on est plutôt en difficulté sur le plan des ressources humaines en ce moment. Et puis ensuite, c'est un travail permanent, de l'idée de communiquer et de réussir à communiquer sur le social. C'est, alors là, il y a plein de, surtout aujourd'hui, plein de vecteurs de communication. Hein, la radio en est un. Avec l'émission de ce jour, ça va y participer. On a également, bien sûr, l'écrit. On a un site qui est actualisé. On a Facebook. Voilà, la question de la communication, elle est permanente et on est loin d'être parfait sur cette question-là, j'en suis bien conscient. Mais bon, on n'a qu'à s'améliorer, mais voilà, on va essayer de continuer de persévérer pour s'améliorer.
Et donc, pour 2020, ce serait quoi vos objectifs ?
Alors, l'année 2020, ça va être une année charnière. Hein. En fait, les centres sociaux, pour faire très rapide, sont des équipements qui sont agréés par la Caisse d'allocation familiale, agréés à partir d'un projet, ce qu'on appelle un projet social, pour une période de 4 ans. Et ces projets, une fois qu'il est agréé, ça donne des financements par la Caisse d'allocation familiale et ça donne des financements aussi par la collectivité sur laquelle on est implanté. C'est un peu la structure financière d'un centre social, c'est cela. Alors, l'année 2020, pour nous, est tout à fait particulière puisqu'on va rentrer dans ce qu'on appelle le renouvellement de projet. Le renouvellement de projet, ça consiste à faire ce qu'on appelle un diagnostic partagé, c'est-à-dire aller rencontrer les habitants, repérer ce qui représente des enjeux importants pour eux, enjeux sociaux importants. Et à partir de là, on va redéfinir un nouveau projet pour les 4 ans à venir. Donc, c'est le travail qui nous attend pour l'année 2020.
Et donc, vous allez rencontrer comment les habitants ?
Alors, on va définir avec les habitants comment on va s'y prendre. Ce n'est pas moi qui, dans mon bureau, vais devant mon écran dire comment on va s'y prendre. Il va y avoir des rencontres et on travaille ce qu'on appelle la méthodologie d'intervention, la manière dont on va s'y prendre. C'est une manière qui va être définie avec les habitants, puisque les centres sociaux, par essence, sont très vigilants sur ce qu'on appelle le participatif. Donc, la manière dont on va s'y prendre est à construire aussi avec les habitants.
Oui, mais avec les habitants qui viennent au centre social.
Évidemment.
Et les autres ?
Eh bien, les autres, on va définir avec les habitants qui viennent au centre social comment on s'y prend pour aller travailler, rencontrer ceux qui ne viennent pas.
Jean Meyer, vous êtes le directeur du centre social de la Croix-Blanche. Merci à vous.
Merci également.
On se rend compte que les habitants ont des idées pour faire bouger leur quartier.
Et que le lien entre les uns et les autres est essentiel.
Mireille nous dévoile aussi une idée, son idée.
Que faire à Bourg le dimanche ? Beaucoup de personnes sont seules avec peu de moyens. Bourg est une petite ville et le dimanche est un jour vide, pour beaucoup, surtout l'hiver. Ce serait bien qu'il y ait un lieu ouvert à tous, un lieu où l'on pourrait échanger dans un endroit confortable, rencontrer d'autres personnes qui auraient aussi des idées. Des bénévoles pourraient assurer une permanence, un ou deux dimanches par mois, pour animer ce moment de détente, offrir une boisson et créer du lien. Pourquoi ne pas apporter un gâteau fait maison ? Ou organiser des jeux ou des discussions sur des sujets divers. Toutes les idées sont les bienvenues pour que le dimanche ne soit pas un jour vide pour certains. L'idée est lancée. Chers auditeurs et auditrices, si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Radio B. On a tous à apprendre les uns des autres et on a tous quelque chose à partager.
C'est la fin de notre émission.
Merci de nous avoir écoutés et merci à la boulangerie Cerea pour son accueil.
Merci à toute l'équipe du Centre Social et merci à Radio B.
Merci aux partenaires du contrat de la ville pour le financement de cette émission.
Restez branchés sur Radio B 90 FM. Tout de suite, votre magazine d'information. À vous les Burgiens.
À bientôt.
À bientôt. On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis in there and in hummus.